à voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Barbara Cassin. Ce soir, ce que signifie être chez soi.
Bonsoir Barbara Cassin.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé de la sophistique et des sophistes que vous aimez beaucoup et qui sont un de vos terrains de travail comme philosophe. Et ce soir, nous allons parler de ce que signifie être chez soi. Alors, être chez soi dans une langue, ça a un sens, mais d'abord, très concrètement, être chez soi dans une maison. Vous êtes très souvent en Corse. Est-ce que vous pouvez, puisque nous n'y sommes pas, Barbara Cassin, là, nous sommes dans votre maison parisienne, décrire votre maison corse?
Ah, c'est comme un bateau. Elle est sur l'eau et c'est un lieu d'où je vois le cosmos, c'est-à-dire le monde ouvert. Il n'y a pas de maison à l'horizon, il y a la mer, il y a une maison sur la droite, très loin, et il n'y a rien que la ligne d'horizon, les lumières qui changent, le soleil qui se couche et la mer qui change aussi énormément, la mer aux entrailles de raisin. La mer qui se déchaîne. Bon, donc c'est le cap, très très violent et très très beau et très très sauvage. On a trouvé un point d'attache, enfin on a trouvé un lieu d'une beauté à couper le souffle et qui nous a paru adéquat pour nous et pour les enfants qu'on commençait à avoir ensemble. Et donc, mon mari n'est pas corse, moi non plus. Et cette maison a une très jolie histoire, en fait. C'est-à-dire que nous avions avant une maison avec des chevaux, mon mari était cavalier en concours. Moi, je montais aussi. Et puis, cette maison n'était pas à nous, c'était une maison en location. Et elle a été entourée par une ville nouvelle, et c'est devenu insupportable. Et donc on a mis les chevaux ailleurs, et on a laissé la maison, et on a cherché un lieu. Et nous connaissions la Corse pour nous y être baladés, avoir dormi sur les plages, etc. Donc on est allé là. Et on avait vu dans la centrale du particulier une petite maison qu'on avait été voir et qui était atroce. Et je suis rentrée dans la première agence immobilière et la seule, je crois, à Bastia. Et là, j'ai vu le monsieur Marsu et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « Je veux un truc impossible, on n'a pas d'argent, mais je voudrais une maison sur la mer. » Il m'a dit « Oui, c'est impossible, enfin laissez-moi votre nom. » Et mon mari s'appelait Le Gendre, s'appelait Le Gendre. Moi, je m'appelle Cassin et je lui ai donné mon nom Cassin, comme ça. Il m'a dit « Mais vous connaissez ce type-là ?» Et ce type-là, il a désigné un tableau qui était au-dessus de lui, une photographie, et c'était René Cassin. Donc j'ai dit, bah oui, c'était mon grand-oncle. Il dit, il m'a sauvé la vie, je vais vous trouver quelque chose. Et donc, il nous a indiqué un endroit pour aller voir. Et cet endroit, c'était une maison qui avait appartenu à un ambassadeur de France et qui avait été plastiquée. Donc il n'y avait plus de toit, mais c'était un lieu d'une beauté, ce lieu que nous habitons maintenant. Et donc, c'est un peu compliqué de tout vous raconter, mais donc je vais m'arrêter là sur ce récit, parce que ça met en jeu pas mal de choses, en fait, si je continue, sur ce que c'est qu'un prix, sur ce que c'est un prix de vente, sur ce que c'est que la possibilité pour des pinsoutes, c'est-à-dire des gens du continent, d'acheter sur... Et pour moi, tout... On était dans la plus totale ignorance des risques qu'on pouvait prendre, et en fait, on n'en a pris aucun grâce à cet homme-là, qui nous a assuré, comment dire, une bienveillance. Et cette bienveillance, c'était pas simplement lui qui l'assurait, on a été accueillis. On a été accueillis, c'est un tout petit bout de village. Il y avait presque personne qui habitait dans cette marine, qu'un vieux pêcheur. Et bon, quand on arrivait et dès qu'on a eu un congélateur, on trouvait une petite langouste pour les enfants. Enfin, je veux dire, c'était génialement accueillant. Et quand je dis que je suis chez moi en Corse, ça ne veut pas du tout dire que j'y ai des racines. Ça ne veut pas du tout dire que je sois en pays conquis. Ça veut simplement dire que j'y suis accueillie. Et ça, c'est quelque chose qui est inoubliable. Et j'y suis accueillie au point que, et nous y avons été accueillis, au point que mon mari y est enterré. Et est enterré comme on peut le faire en Corse, quand il n'y a plus de place au cimetière, dans une terrasse sur la mer, dans la maison. Et donc, ce lieu est donc un lieu auquel on appartient aussi. C'est pas du tout, c'est nous qui lui appartenons, si vous voulez. Mais je suis pas chez moi. Je suis là où on m'a accueillie.
Est-ce que vous pouvez, Barbara Cassin, identifier les raisons pour lesquelles vous aimez particulièrement l'Odyssée et l'Iliade, sans doute, mais voilà.
Ben d'abord, c'est une invention de langue. C'est un grec magnifique. Qui est fait pour être retenu aussi, puisque c'est une scansion, etc. Donc c'est un poème qui s'invente et une langue qui s'invente en même temps. Et puis quand on le lit de près, c'est chaque aventure d'Ulysse nous parle de nous terriblement et nous parle de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas. Et j'aime je crois que j'aime tout. Là, je fais un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est vraiment faire », sur la manière dont les mots font des choses. Il y a Austin, comme ça, « How to do things with words », oui, en toile de fond. Mais la première partie porte sur Homère et porte sur Ulysse et sur un moment très précis de l'Odyssée, où Ulysse, quand il est lui tout seul, le dernier survivant, naufragé, qu'il a échoué sur une plage et qu'il n'en peut plus, sur un bout de bois, bon, il n'en peut plus, il s'endort dans un coin et il reçoit un ballon sur lui. C'est Nausicaa qui est en train de jouer avec les servantes, donc ça le réveille. Et il voit ses filles et il se dit, bon, voilà, il faut y aller. Et... Alors, là, c'est comme un lion des montagnes, le ventre le poulet, etc. Bon, les comparaisons homériques sont sublissimes et elles font les mondes, elles rendent le monde perméable. Lui, c'est un lion des montagnes, elle, Nausicaa, c'est le jeune fût d'un palmier, enfin, vous voyez. Et donc, le monde est là tout entier, le cosmos, ce que j'appelle le cosmos. Bon. Et donc, Ulysse se dresse et. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout nu, et il y a une jeune fille là, sublime, devant lui, et il a peur de lui faire peur. Donc il casse un bout de branche pour envoiler sa nudité, et il lui parle, et il invente ce discours qui gagne, Kerdaleon Mutos, ce discours plein de gain, et il lui dit, je te prends les genoux, que tu sois femme ou déesse, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Et prendre les genoux, c'est le geste du suppliant. Hein. Il faut, dans l'Antiquité, qu'on s'accroche aux genoux de quelqu'un, qu'on les saisisse, qu'on les entoure de ses bras pour être, au fond, protégé. Hein. On est accueilli. C'est le geste du suppliant et on ne va pas vous tuer quand on fait ça. Et en général, on exauce ce que vous demandez. C'est solennel. Mais là, il ne peut pas lui faire ça à cette fille, lui tout nu. Donc, il lui dit, il lui dit même avec un verbe assez étrange, il lui dit « je te genouille ». Bon, ça, si vous voulez, c'est l'une des mille inventions qu'on trouve. Moi, je lis Homère en philosophe aussi. Hein. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité entre écrire ce livre « Quand dire, c'est vraiment faire », écrire un livre dont j'ai le titre, qui est « Homère en philosophe ». Et je ne sais plus comment faire parce que trop de choses, j'ai dit trop de choses sur Homère, éparpillées. J'ose pas reprendre tout ça. Bon, vous savez, l'un des grands problèmes quand on écrit, moi du moins, c'est que on a trop peur de se répéter. On a un jeu de cartes avec lesquelles on m'avait dit un jour, on a un jeu de cartes et on les rebat autrement. C'est malheureusement très, très difficile de...
D'ajouter une carte ?
Peut-être pas d'ajouter une carte, mais de omettre les cartes qu'on a déjà. Voilà, c'est plutôt ça, d'oublier les cartes qu'on a. Et je m'en suis aperçue là, dans le livre donc, que je viens de terminer, où je décris au fond le château de cartes qu'est mon travail. Bout par bout, tout s'imbrique, et c'est fragile. Hein. Char disait, quand il passait dans la rue du 7e, par là où il habitait, vers la rue de Chanaleil, il disait qu'il avait son œuvre tout entière sur sa tête, et puis, paf, elle est tombée, et il restait 33 morceaux. Ça s'appelle, c'est un très beau poème qui s'appelle « En 33 morceaux ». Eh bien, d'une certaine manière, moi j'ai toutes les cartes sur la tête et elles sont pas encore tombées, donc j'ose pas en abandonner, vous voyez. C'est terrible. J'ai l'impression que quand je dis un truc, tout se tient.
Barbara Cassin, vous avez un attachement à l'Europe, ou vous pensez que vous n'avez pas, à part un attachement à des maisons, vous vous sentez sans... Enfin, peu importe le continent.
J'aimerais bien que l'Europe soit vraiment de l'Europe. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'elle soit à la fois multiple et accueillante. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de politique décente concernant les migrations, les migrants ou les gens qui arrivent est un scandale. C'est aussi indispensable qu'une politique monétaire commune, et une politique culturelle commune, une politique... Bon, voilà, j'ai envie d'Europe. D'ailleurs, un Européen, c'est probablement quelqu'un qui a envie d'Europe. Parce que la réalité de l'Europe, c'est pas très marrant. Mais envie d'Europe, oui. Et par ailleurs, l'Europe, elle est dans le monde. Et il faut absolument interagir et comprendre comment fonctionne ce monde et essayer de fonctionner. Fonctionner est un vilain mot. Essayer de savoir faire avec les différences dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'aime voyager. Enfin, c'est fatigant de voyager, mais j'aime beaucoup.
Et vous voyagez beaucoup ?
Beaucoup, beaucoup. Oui. Oui.
Et vous êtes partie, Barbara Cassin, après la fin de l'apartheid, en Afrique du Sud, pour mettre en place à l'Université du Cap un département de rhétorique.
Il était en place, c'est moi qui y ai travaillé. C'est Philippe-Joseph Salazar et puis d'autres qui ont fait un département de rhétorique. Et on m'a invité comme professeur à ce moment-là. Et puis, j'ai séjourné plusieurs fois en Afrique du Sud et j'y ai travaillé avec un certain nombre de gens, et notamment avec des étudiants qui étaient requis qui faisaient des associations semi-étatiques, notamment Kulul Hekani, Liberté en Xhosa, qui, si je ne me trompe. Et l'ANC m'avait demandé de travailler avec eux à Bring Parliament Closer to People, faire en sorte que le Parlement soit plus proche du peuple. Et donc, j'ai travaillé dans ce contexte, si vous voulez, à ce qui s'est passé avec la Commission Vérité et Réconciliation, qui pour moi a été aussi une expérience. Peut-être si je dis quelles sont les expériences concrètes qui m'ont vraiment marquée, c'est l'expérience de pédagogue d'adolescents psychotiques dont on a déjà parlé et l'expérience de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et à chaque fois, au fond, ce qui m'a stupéfaite, c'était le pouvoir, la force du pouvoir du langage.
Vous pouvez en rappeler, Barbara Cassin, les objectifs
de la Commission Vérité et Réconciliation? Ben, c'est fabriquer le peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire faire en sorte que la fin de l'apartheid et les élections libres, les premières élections libres, one man, one vote, ne débouchent pas ou ne soient pas conditionnées par un bain de sang. Donc, il fallait tout le génie et toute la sagesse, vraiment. Si j'avais envie de, si j'utilise le mot, c'est même pour cette seule personne que j'ai envie de l'utiliser. La sagesse de Mandela et de Desmond Tutu pour que ça puisse se faire. Pour moi, enfin, Mandela, c'est le grand homme de ce siècle. Et donc, voilà, j'ai les principes de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est ce qu'ils ont appelé, enfin, moi, j'appelle ça comme ça, la vérité ironique. C'est full disclosure. Il faut que les perpetrators, c'est-à-dire les ceux qui ont commis des grosses violations des droits de l'homme, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, fassent une full disclosure, disent tout. Et c'est à partir de ce tout dire qu'on va construire un passé commun sur lequel pourra vivre le peuple arc-en-ciel. Pourquoi est-ce qu'il fallait cette full disclosure? Pourquoi c'est une si dure construction? Bien, parce que les tonnes d'archives ont été détruites, les morts, on ne sait même pas qui n'est où, ni où ils sont. Et donc, sans ce travail de mémoire collective, sans cette interférence entre les discours, on ne saurait rien. Donc, l'idée, c'est de construire un passé commun pour fabriquer le peuple arc-en-ciel. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et là on revient à la sophistique, si vous voulez, dont nous parlions auparavant, c'est ce que Desmond Tutu appelle la vérité ironique, c'est ces gens-là qui devraient se taire, qui doivent parler, et qui ont intérêt même à parler, pour être amnistiés. Car la chose, c'est que ce qui est dit comme violation, quand c'est dit entièrement, est amnistiable. Sinon, non. Donc, ceux qui avaient intérêt à taire se retrouvent à avoir intérêt à parler. Et ainsi, le tissu social s'est reconstitué. Le tissu historique aussi s'est reconstitué. Donc, c'est une procédure extraordinaire. Et on peut réfléchir vraiment à la manière dont elle devrait s'appliquer dans d'autres lieux du monde. Il y a eu des tribunaux Gachassa, etc., au Rwanda, etc. Il y a eu des tentatives, mais par exemple, je vois mal comment on se sortira de Israël-Palestine sans quelque chose comme ça. C'est-à-dire une reconnaissance nécessaire de ce qui a eu lieu et de ce qui est en train de se faire et pourquoi, comment faire avec ça. Donc moi, j'ai la plus grande admiration pour la Commission Vérité et Réconciliation.
Vous avez aimé l'Afrique du Sud, Barbara Cassin?
L'atmosphère. Je sais pas ce que ça veut dire.
L'atmosphère, voilà, de la ville, la face. Ouais.
C'est très beau. Il y a des gens formidables. Voilà. Bon. Maintenant, j'y ai fait des choses. Je n'étais pas touriste. Le seul moment où j'étais un peu plus touriste. Et où je peux dire j'ai aimé, si vous voulez, tout simplement, c'est quand on a parcouru les sites des grottes avec les peintures, les rock paintings. Je crois que ça aussi, c'est un grand moment alors d'émotion esthétique extraordinaire, mais pas seulement esthétique, intellectuelle, parce que on voit sous des abris, ce ne sont pas des grottes profondes, c'est plutôt des abris. On voit des mains avec des lignes de pouvoir qui sortent. Et puis, ça communique avec, des kilomètres après, une autre ligne de pouvoir. Et ces lieux ont été sans cesse réhabités, repeints. C'est-à-dire que on voit des choses préhistoriques et sur les mêmes parois, ou presque, des choses contemporaine de l'arrivée des bourgs avec des chevaux et des pistolets et avec le même type de facture. Et puis véritablement les peintures préhistoriques dans certains coins d'Afrique du Sud et en Namibie sont peut-être les plus belles choses du monde.
Vous connaissez beaucoup d'autres pays d'Afrique?
Mon mari travaillait au Cameroun notamment, à Madagascar, au Kenya, et je l'ai beaucoup suivi. Je connais le Sénégal aussi, je connais un certain nombre de pays d'Afrique, mais pas bien, je ne sais pas ce que veut dire connaître, si vous voulez. Et puis ça dépend comment on y va. Quand on y va comme femme qui suit un mari qui fait des usines de médicaments ou de produits de première nécessité, c'est pas la même chose que quand on y va comme prof.
Vous avez un projet, Barbara Cassin, qui est de fonder ce que vous appelez des maisons de la sagesse. Est-ce que vous pouvez-vous expliquer ce que c'est ?
Ah, alors, je ne les fonde pas, parce que c'est un réseau. Donc, je ne sais pas si on fonde un réseau. On essaye de le faire tenir, mais bon, c'est un réseau de lieux et d'actions. Et on a créé une association qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire, parce que c'est toujours autour de la langue et de la traduction que ça s'articule. Alors, pour l'instant, on commence juste, hein, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang. Donc, on a
qui est une cagnotte en ligne.
Voilà, participative. Oui. On a très peu de sous, il faudrait qu'on recommence ou qu'on se donne du mal pour obtenir de l'argent. Mais le problème, c'est que c'est plus facile d'obtenir, je sais pas, 500 000 euros que d'obtenir 5 000. Donc, moi, j'arrive pas à m'y faire, ça, si vous voulez. C'est pareil pour les dossiers de subvention à Bruxelles, etc. Donc, j'ai un peu de mal. Mais ça viendra peut-être. Et en tout cas, donc ce projet est un projet qui travaille avec les migrants, les migrations d'aujourd'hui. Donc, d'abord, on réfléchit sur l'accueil et on voit ce que les gens qui débarquent quand ils survivent ont à remplir comme fiche, et c'est normal. C'est normal qu'il y ait des papiers à remplir. Mais comment est-ce que c'est fabriqué? Et alors, ils sont très aidés. Il y a des interprètes. Mais quand même, comment c'est fabriqué? Qu'est-ce qui est injecté dans ces questionnaires? Quand on demande à une femme syrienne si elle est mariée, divorcée ou paxée, on fait quoi exactement? Et quand on demande à un Malien, quelle est sa date de naissance, on ne devrait plus être surpris qu'ils disent le 31 décembre. Parce que, en soninké, on dit never. Et puis ça, c'est une demande hyper coloniale. Bon, quand est-ce... si on donne pouvoir, si on dit sa date de naissance. Donc, bon, je travaille par exemple avec des gens d'Aubervilliers, et là, on s'est aperçu que, en effet, ils étaient presque tous nés, les Maliens, le 31 décembre ou le 1er janvier. Et voilà. Donc, à l'état civil, qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Ou bien avec les noms propres, les noms femmes, hommes, c'est quoi, quel nom elle va prendre cette femme, le nom de son père, le nom de son mari, elle veut la sécu, elle veut quoi, enfin bon, voilà, tout ça est extrêmement subtil et mérite qu'on fasse un glossaire de la bureaucratie française. Si on peut le comparer avec la bureaucratie allemande, on le fait et on le travaille autant pour les bureaucrates que nous sommes tous que pour ceux qui arrivent. Voilà.
Et vous êtes combien?
Oh, je vous dirais pas, on est trop peu, c'est ridicule. Mais on est très bénévole et très actif. Voilà. Donc, et puis on est sans arrêt avec des gens du coin. Donc je travaille à Aubervilliers, nous travaillons beaucoup à Aubervilliers et à Marseille. Donc ça, c'est le premier type d'action que nous menons. Ensuite, on réfléchit à une action, disons, on va mettre tous les guillemets, d'insertion. Donc, quand ils sont là, ces gens qui sont arrivés, et qu'ils commencent à inventer quelque chose dans leur vie de travail, qu'est-ce qui se passe? Et là, sur le modèle de banque africaine, avec Danielle Vosny, une amie qui s'est occupée du patrimoine au ministère des Affaires étrangères, par exemple, elle travaille sur l'idée de banque musée. Donc, mais en l'adaptant à ce qui se passe en France. Donc, comment faire? Eh bien, nous travaillons avec l'ADI, qui est un organisme de microcrédit, que je trouve extraordinaire, et qui octroie un microcrédit et accompagne les projets pour ceux qui ne sont pas éligibles par une banque. Et on réfléchit à montrer, au moyen d'un objet, la manière dont ils vivent et dont ils sont insérés. Par exemple, je prends un exemple, sinon on va rien comprendre. À Marseille, on a travaillé avec un jeune berbère qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille. Qu'est-ce que ça, c'est quoi ça? Un berbère, mexicain, Marseille. Bon, il a eu un crédit de l'ADI pour faire ça. C'est l'ADI qui nous a conduit à lui. Et donc, comment est-ce qu'on montre son intention et sa vie. Et il nous a proposé un magnifique objet qui est un tableau qu'il a commandé à une peintre d'Aix qui représente une main de Fatma comme si c'était Frida Kahlo qui l'avait peinte. C'est très beau. Et ça en dit très long sur son parcours quand on l'accompagne du récit. Je veux dire, des objets et des récits liés à un octroi d'argent ou de l'argent déjà obtenu. Et ça, montrer pour changer l'idée de banque et changer l'idée de musée. Vous voyez, objet, récit, microcrédit, bon, on change tout. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire à Marseille et à Aubervilliers. Et à Marseille, par exemple, moi je prépare une exposition à la Vieille Charité qui s'appellera « Objet migrateur ». La Vieille Charité, c'est un lieu magnifique de Marseille, où il y a aussi un musée d'archéologie, richissime. Et nous voudrions apparier un objet migrateur de jadis, antique, étrusque, grec, bon, et un objet migrateur d'aujourd'hui. Essayer de réfléchir à l'idée même de migration d'objets, et montrer comment la civilisation se construit de cette manière-là. Et surtout, au fond, déniaiser l'idée que les gens peuvent avoir de la migration terrifiante. Bon. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième dispositif que j'essaye de mettre en place, il est plus lourd, mais il est plus scientifique, avec tous les guillemets que vous voudrez, c'est sur le modèle du dictionnaire des intraduisibles dont on a parlé tout à l'heure, ou hier, le dictionnaire d'intraduisibles des trois monothéismes. Parce que, si on réfléchit bien, c'est quand même là que ça bloque. C'est quand même entre Torah, Bible et Coran qui se passent des choses difficiles à digérer. Et donc, nous travaillons, par exemple, là je vais partir aux États-Unis pour travailler avec l'université de Brown et celle de Columbia là-dessus, nous travaillons sur comment on dit Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, et comment Dieu se dit lui-même, comment on en parle, comment on parle du Dieu des autres, et quels sont les mots. Bon, comment on dit croire? Comment on dit, pourquoi vendredi, samedi, dimanche, pourquoi? Comment? Comment ça se dit? Comment ça s'explique? Bon, donc on va faire un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Je ne sais pas, peut-être on aura fini dans 10 ans, ou peut-être jamais, mais au fond c'est pas grave. On commence, et on commence par des symptômes qui nous accrochent. Voilà. Donc ça, c'est en gros le programme actuel des Maisons de la Sagesse. Ça serait plus simple si en effet on avait 500 000 euros.
Merci Barbara Cassin. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Barbara Cassin. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Gilles Gallinaro, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.